entre 30 et 40 000, je dirais, essentiellement dans des réserves fédérales, mais également de plus en plus dans les banlieues des villes de l'intérieur et même des grandes villes de la côte. Les Kangang qui sont de la famille linguistique G, donc à laquelle appartiennent par exemple les Bororo, les Kayapo, des groupes assez connus. Ils sont dans plusieurs réserves. Mon terrain se concentre essentiellement dans cette section de l'État de Santa Catarina, mais également dans l'État du Paraná et du Rio Grande do Sul, donc où sont concentrées plusieurs réserves autochtones. On est à 500 km de la côte atlantique et on se retrouve dans une forêt de pins araucaria, donc c'est un climat tempéré. C'était une région extrêmement giboyeuse. Selon les Kangang, c'était une région abondante en gibier, étant donné la production des fruits du pin araucaria qui attire les rongeurs, qui attire également plusieurs types de mammifères. Malheureusement, c'est une région qui a été complètement dévastée. Et aujourd'hui, on se retrouve essentiellement en milieu rural. La région où je travaille maintenant est considérée comme un des greniers du Brésil, c'est-à-dire une région où on produit massivement des céréales, essentiellement, pour l'exportation. Et donc, les Kangang se retrouvent dans des réserves qui ont été, pour la plupart, dévastées et où on trouve encore aujourd'hui des lambeaux de forêt. Ce qui m'a frappé dès mes premiers séjours sur le terrain, c'est l'importance qu'a encore aujourd'hui la forêt pour les Kangang. Donc, c'est un lieu extrêmement important à tout point de vue et on se réfère constamment à la forêt comme étant la forêt vierge. C'est un lieu essentiellement d'où proviennent les pouvoirs. Forêt vierge qu'on va nommer en Kangang Nyet Kishan, qui veut dire la forêt froide, c'est-à-dire celle où ne pénètre pas la lumière du soleil. Ici, pour vous situer un peu et pour situer la place des animaux, il faut comprendre que c'est une société G, donc dualiste, organisée en moitié et en section. Je retiens essentiellement les deux grandes moitiés, Kame et Kairou, puisqu'elles permettent de classer l'ensemble du monde, l'ensemble des éléments de la cosmologie, avec des éléments comme Kame et Kairou divisés en lune, soleil. Et on peut également, ce qui est intéressant, classer l'ensemble du monde végétal en Kame et en Kairou, et également la plupart des espèces animales. Par exemple, le jaguar qui est Kame et qui s'oppose au singe qui est Kairou, des mammifères comme le tatou, par exemple, qui est Kairou, qui s'oppose au caïman, qui est Kame. Donc, il y a une logique dualiste qui est extrêmement importante et qui est encore relativement connue aujourd'hui, qui est employée, entre autres, dans l'enseignement scolaire. Et on retient de ce système une dualité, alors que c'est un système beaucoup plus complexe, qu'on pourrait dire même quadripartite, avec également l'usage de plusieurs triades dans les classifications. Donc, c'est l'élément que je voulais souligner. Et je commence avec une citation de Lévi-Strauss qui est tirée d'un entretien qu'il avait donné il y a longtemps à Didier Ribon. Et Didier Ribon lui dit « Je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce qu'un mythe? » Alors, Lévi-Strauss répond et je retiens essentiellement l'idée où Lévi-Strauss mentionne « Si vous interrogiez un Indien américain, hein, il aurait probablement répondu que ces mythes sont des histoires qui remonte à une époque où les humains et les animaux n'étaient pas encore distincts. Hein? Alors ça, c'est bien connu. Et ce qui est intéressant, c'est que Lévi-Strauss ajoutait ceci, une réflexion concernant la tradition judéo-chrétienne, hein, qui reposerait sur l'idée que la non-communication avec les animaux est problématique. Hein? Effectivement, peut-être que le colloque des trois jours va nous permettre de discuter de ces questions. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour les Kangang, ce problème-là ne se pose pas, puisqu'il y a plusieurs contextes où la communication avec les animaux est encore possible et une communication qui est similaire à celle que décrivent les mythes. Hein? Et Premier exemple qu'on peut donner au premier contexte, c'est celui du chamanisme Kangang. Les chamans qu'on nomme Kuyang sont des individus qui possèdent des guides qui peuvent être des animaux, en fait, qui essentiellement, dans le passé, étaient des animaux, mais qui maintenant, aujourd'hui, peuvent être également des végétaux et des saints du panthéon catholique populaire régional. Donc, on va nommer Yangré les animaux et on parle de Santos quand on parle des saints. Alors, parmi des exemples de ça, on a l'Oslo, qui est un des guides les plus fréquents. L'Oslo qui est camé, donc on a toujours cette connotation. Plusieurs félins, en fait, vont être présents. Le puma, bien sûr. Le renard. Je ne mentionne pas le jaguar parce que c'est le plus puissant, donc on le prend pour acquis. Le grison, un autre exemple de ces animaux. Et les saints, qui font partie aujourd'hui de cette pratique. Alors, les chamans peuvent être guidés soit uniquement par des saints, uniquement par des animaux, et il y a des cas extrêmement intéressants où on a chevauchement des deux. C'est-à-dire que les guides sont à la fois des saints et des animaux. On a, d'une certaine façon, un culte des saints chez les Kangang, qui correspond à ce que la tradition populaire régionale pratique. Et on peut avoir des combinaisons comme, par exemple, le jaguar et un saint. Ici, Saint-Sébastien, qui est considéré comme un des saints les plus puissants par les Kangang, en raison de son côté guerrier, donc un saint qui est souvent représenté avec des flèches qui l'ont atteint. Donc, c'est un élément important de leur pratique. Et une des premières choses que j'ai apprises avec les Kangang, pour bien vous situer le contexte ethnographique dont on parle, c'est en apparence un paradoxe. Les Kangang qui me disaient, dès le premier jour de terrain, il faut bien que tu comprennes que notre religion et la religion catholique, c'est une seule et même religion. Ça, c'est très cette pensée qu'on appelle dualisme, mais on combine les choses et il n'y a aucun paradoxe, il n'y a aucune contradiction à être à la fois Kangang et catholique. Et ce que je vois maintenant, ce que je découvre avec la conversion massive au pentecôtisme, c'est que cette logique se poursuit, se maintient dans des contextes évangéliques et pentecôtistes. Et donc, quand on revient à la citation de départ que j'avais extrait d'un entretien avec Jorge Canang Garcia, qui est un ex-chaman de 85 ans, de la Terra Indígena Nonoai, c'est dans le Rio Grande do Sul. Alors, ce que nous explique Jorge Canang, c'est qu'en fait, il y a une hiérarchie qui implique les saints du panthéon catholique et les animaux. Donc, si on regarde la traduction ici, on a l'idée que les animaux sont commandés par la religion. Et là, on nomme quelques saints, Saint-Antoine, Saint-Pierre, Saint-Jean, donc les 12 apôtres. Et les animaux sont dirigés par eux. Et sans eux, le monde n'existerait pas. Les animaux obéissent donc à la religion. Et donc là, ici, Jorge Canang introduit une notion intéressante. Si l'animal est un cacique, il doit posséder un savoir. Et ce savoir découle de cette relation aux saints, aux apôtres de Dieu. Donc, une notion ici que j'aimerais aborder rapidement, c'est cette notion de maître ou entité de la nature, donc qui se superpose à la notion de guide ou de yangré. C'est-à-dire que selon les Kangang, tout possède un maître ou un chef. Les termes dono pour maître et cacique pour chef. Et cette caractéristique est constamment signalée par l'usage d'un suffixe qu'on ajoute au nom de l'animal, par exemple, qui est tong. Donc, des exemples ici, tatong, qui signifie le maître de la pluie et de l'orage, potong, le maître des pierres, hein, qui. On mentionnait les pierres ce matin, donc c'est très important dans cette cosmologie. Nentong pour le maître de la forêt et Mingtong, le maître du jaguar. Alors, chaque fois qu'on interagit avec l'animal ou qu'on pénètre en forêt. Par exemple, dans le but de cueillir des plantes, il faut s'adresser à ce maître et il faut lui demander l'autorisation d'opérer, d'agir, de poser les gestes, en fait, qu'on veut poser. Donc, c'est fondamental et sous peine de sanctions, sous peine de maux de tête, de ventre, etc. Donc, il y a des conséquences à ne pas interagir, à ne pas demander la permission à ce maître. Donc, les tongs sont considérés comme possédant une très grande puissance et certains traits qui permettent de les distinguer des membres de son espèce. Donc, quand on parle d'une entité maître, il est possible de la distinguer lorsqu'on a la chance de l'entrevoir. Alors, par exemple, le maître des vautours va être décrit comme étant un oiseau de très grande taille qui possède un long cou et dont la pointe des ailes est blanche. Donc, ce qui va le distinguer des vautours de façon générale. Le fourmilier, de son côté, le maître des fourmiliers, on dit qu'il est si puissant qu'il fait fuir jusqu'au jaguar. Donc là, on insiste plutôt sur la puissance. Et on explique comment le fourmilier peut non seulement faire fuir le jaguar, mais peut même menacer la vie du jaguar. Donc, c'est intéressant parce qu'on est dans une discussion qui porte sur une hiérarchie de puissance, au sommet de laquelle les Kangang, comme plusieurs peuples sud-américains, posent le jaguar. Mais le jaguar, il a une certaine puissance, mais relative à certains contextes. Face au fourmilier, cette puissance va varier, et également face au singe, le canière, qui est Kairou. Il y a plusieurs récits où on raconte les péripéties du jaguar et du singe, et le singe va constamment déjouer le jaguar par la ruse. Donc, il a une puissance, mais qui s'affirme d'une autre façon que celle du jaguar. Donc, ici, on est dans une logique de hiérarchie de puissance. Autre exemple intéressant du croisement entre le monde animal et celui des saints, Saint Roch, qui est dans la tradition généralement représenté avec à ses côtés un chien, va être considéré comme le maître des chiens. Hein, Kassor, qui veut dire chien, Tog, maître. Et donc, il est celui qui protège les chiens, qui dirige les chiens de façon générale. Alors, je n'ai pas terminé le survol de la littérature, mais si on regarde de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, le concept de maître est partout présent. Et on a nommé ce concept de façon très, très variée. Donc, je donne quelques exemples ici en anglais. On a mentionné gardien ce matin, c'est Natacha qui parlait de l'animal gardien. On a un livre très connu de Calvin Martin, Keepers of the Game, donc la notion de keepers, owners, controllers, donc des notions qui parlent d'une hiérarchie en termes de pouvoir, mais il y a également en série B, on pourrait dire, des termes de parenté. On peut désigner le maître d'un animal en employant, par exemple, le terme mère, ce que faisaient les Achuas, où j'ai travaillé au Pérou avant d'aller chez les Kangang. Les Achuas disaient, par exemple, pour le Pécari, Paki Nukuri. Paki pour Pécari, Nukuri pour mère. Donc, ça, c'est la mère du Pécari qui contrôle le Pécari, qui libère le Pécari dans certains contextes pour permettre aux chasseurs de s'approprier quelques proies. Une contribution récente de Carlos Fausto, un anthropologue brésilien, sur cette question-là, il a publié en portugais un texte qui porte sur la notion de dono, justement, ça s'appelle Dono de Maïche, qui a été traduit, je pense, récemment. Carlos Fausto dit que le maître des animaux a une connotation de propriétaire et que ce concept contient une collectivité et représente et contient une espèce. Donc, on pourrait dire que la catégorie de maître serait une catégorie englobante, hein, qui connote de façon générique l'espèce, hein, dans sa totalité, donc dans toutes ses caractéristiques. Mais je dirais qu'un des critères importants de cette classification, c'est constamment l'idée de puissance, c'est-à-dire que le maître, c'est le plus puissant de tous les membres de cette espèce. Et donc, ça m'amène à penser qu'il faudrait situer de façon plus précise cette catégorie dans une totalité qu'on pourrait qualifier d'immanente. Et là, je prends l'exemple des Ojibwés que rapporte Calvin Martin, qui disait que les maîtres des animaux, c'était des Manitous mineurs, mais qui étaient sous l'emprise du Kichi Manitou, c'est-à-dire le grand Manitou. Donc, une espèce de totalité cosmologique, cause première des Ojibwés. De façon intéressante, récemment sur le terrain, on m'a parlé justement de cette notion de dono et on m'a dit que c'est très important de bien comprendre que, premièrement, toute entité possède un maître, mais il faut également comprendre que toutes ces entités possèdent également un maître. Et donc, il y a un maître des maîtres. Ce que les Kangang nomment en portugais « dono dos donos » ou « cacique dos cacique », le chef des chefs. Et le concept qu'on utilise en Kangang, c'est « nyonkar hein? ». Et Mathilde Koito, c'est une chamane, une dame qui travaille avec les plantes médicinales, qui guérit à travers des pratiques, disons, reliées à l'usage de maîtres et de plantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est convertie récemment au pentecôtisme. Et donc, intéressant parce que le pentecôtisme, première chose qu'il fait, c'est qu'il interdit de penser Dieu à travers les saints. Le fameux culte populaire des saints doit être mis de côté. Mais Mathilde m'explique qu'elle va utiliser cette notion justement pour ne pas nommer Dieu à partir du terme courant qui est chez les Kangang topin. Topin qui dérive du terme utilisé par les Guarani des missions, tupan. Alors elle dit, moi je ne veux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que quand j'utilise topin, ça fait référence au culte des images. Donc je préfère traduire autrement. Mais en traduisant autrement, elle révèle une dimension fondamentale de la cosmologie Kangang. C'est l'idée, effectivement, qu'on se réfère constamment à des maîtres animaux, mais aussi à des maîtres de toute nature. Donc, Nyonkar, c'est maître des maîtres, et ça peut être traduit par père de tous, ou bien sûr, du point de vue pentecôtiste, Dieu. Donc, elle m'a trouvé il y a quelques années une espèce de porte extrêmement intéressante pour penser la conception du pentecôtisme des Kangang. Je vais chez les voisins. On est dans une région dans le sud du Brésil où on rencontre partout chez les Kangang également des Mbia Guarani ou des Guarani qui circulent dans la région, qui sont présents partout sur le littoral, mais également à l'intérieur des terres. Alors, chez les Mbia Guarani, le terme « ja » désigne la notion de maître. Par exemple, « tupan », c'est le maître de la pluie. Hein? Et ce qu'un collègue brésilien va résumer en disant « Tupan est en fait la pluie ». Et j'ai fait quelques petites recherches chez les Mbia pour me rendre compte qu'effectivement, la notion de maître des maîtres est aussi présente. Hein? Et le chef de tous les gens, comme diraient les Mbia en portugais, le cacique de tous les gens, c'est Nanderu Tenandegua, qui est une entité qui est désignée en portugais comme étant « Nosso Pai Eterno », on pourrait traduire par « Dieu », puisque, selon les Mbia Guarani, c'est le Père de Jésus-Christ. Donc, c'est l'entité qui serait l'équivalent du Nyonkar des Kangang, donc le maître des maîtres. Alors, pour élargir un peu le bassin de cette réflexion sur le maître des maîtres, me réfère ici à une citation du chef Letakot Lessa, un chef Pawnee, citation qui a été récoltée sur le terrain autour de 1904 par Natalie Curtis, publiée en 1907 dans un livre célèbre, « The Indian's Book », où elle compile des sons, des chansons, des légendes, des mythes. Et je traduis ici... Le chef explique à Nathalie Curtis qu'au commencement de toute chose, la sagesse et la connaissance étaient avec les animaux. Ça, c'est très Kangang. Kangang vont dire exactement la même chose. Car Tirawa, celui qui est si déçu, ne parlait pas directement à l'homme. Il a envoyé certains animaux pour dire à l'homme qu'il se montrait à travers les bêtes, Et à travers elles, ainsi que les étoiles, le soleil et la lune, l'homme devait apprendre. Tirawa a parlé à l'homme à travers ses œuvres pour que les Pawnees comprennent le ciel, les bêtes et les plantes. Toutes choses parlent de Tirawa. Donc, ce que nous explique ici ce chef, c'est que les animaux sont la manifestation également d'un maître des maîtres, d'une espèce d'entité englobante première qui s'exprime à travers ces animaux. Et donc, en conclusion, puisqu'il me reste plus de temps, peut-être une provocation pour la réflexion de la suite du colloque. Qu'est-ce que l'humain a de spécifique? C'est peut-être la question qui ressort de ces cosmologies autochtones. Est-ce que c'est le libre arbitre? Est-ce que c'est le sentiment ou l'âme? Ou peut-être même la raison? Et là, on peut se référer à la déclaration de Cambridge sur la conscience de 2012, qui dit que la séparation entre l'humain et l'animal ne peut pas se faire en termes de l'absence de conscience chez les animaux, et surtout pas l'absence d'intentionnalité également. Donc, ça, c'est une provocation pour nous tous. Mais, en fait, qu'on avait déjà vu et entrevu chez les Autochtones avec lesquels on travaille. Là, je reprends Spinoza, qui est peut-être le philosophe occidental qui s'est rapproché le plus des cosmologies autochtones dans sa façon de déconstruire la pensée de Descartes. Spinoza qui dit que, en fait, c'est peut-être le pouvoir de voir et de sentir les choses singulières, soi-même et les autres, sous l'espèce de l'éternité. Ou on dirait aujourd'hui, peut-être de façon différente avec Wittgenstein, on part d'une perspective intemporelle. C'est-à-dire qu'au moment où se produit la relation à l'animal, il y a une espèce de fusion entre le passé, le présent, en fonction, bien sûr, d'un futur. Donc, on est dans une contextualisation qui rappelle celle que décrivent les mythes. Donc, on a une espèce de retour constant à ce temps premier, qui est constamment présent autour des relations qui s'établissent avec les animaux. Merci beaucoup.